Bienvenue dans ce troisième épisode de Finanthrope, le podcast qui remet l'humain au cœur de la finance. Un podcast Investir Éthique. Dans ce nouvel épisode, je vais m'intéresser à l'américanisation de la finance durable. Et je vais commencer par vous lire une citation. Les produits d'épargne retraite privée ne sont pas faits pour avancer des objectifs sociaux ou politiques qui ne sont pas dans l'intérêt financier de l'épargnant. La réglementation proposée par le département rappelle aux fournisseurs de produits d'épargne retraite qu'il est illégal de sacrifier du rendement ou d'accepter des risques supplémentaires via des investissements visant à promouvoir des objectifs sociaux ou politiques. Voilà ce qu'a déclaré dans une tribune publiée dans le Wall Street Journal le secrétaire d'État américain au travail, Eugene Scalia. Et cette réglementation qu'il évoque vise tout simplement à empêcher l'intégration de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance dans la gestion des produits d'épargne retraite de nos voisins américains. Vous me direz, cela les concerne et ce n'est pas parce que leur épargne retraite n'est pas responsable que la nôtre ne peut pas l'être. Mais est-ce que c'est si vrai? Au cours des dernières années, la finance verte européenne s'est placée sous influence américaine. C'est un phénomène dont la visibilité a été boostée en avril quand la Commission européenne a confié un mandat à BlackRock pour élaborer des propositions sur la manière d'intégrer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la supervision bancaire, un mandat sur lequel une enquête pour conflit d'intérêts a d'ailleurs été ouverte. Mais BlackRock n'est que la partie visible de l'iceberg, et cette influence américaine, elle se sent depuis plusieurs années déjà sur le marché des agences de notation ESG. Un marché assez peu connu du grand public, mais dont l'activité est très importante pour les portefeuilles des Français. Ces agences de notation, elles analysent les entreprises cotées en bourse et leur attribuent des notes sur des critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ces notes sont ensuite rachetées par des fonds d'investissement français, anglais, luxembourgeois, etc. pour les intégrer dans leur propre système de gestion et prendre leurs décisions d'investissement. Or, qui détient ce marché? En 2016, le britannique Trucost a été acquis par S&P Dow Jones, le fournisseur d'indices boursiers américains. En 2018, l'allemand OECOM a été racheté par l'américain ISS. En 2019, c'était au tour de Vigeo Eiris, un acteur français historique de la notation extra-financière, qui a été racheté par Moody's, l'une des trois principales agences de notation financière, tout court, aux États-Unis. Début 2020, c'était au tour du néerlandais Sustainalytics de se faire racheter par l'agence américaine de notation Morningstar. Et cette année, on a eu aussi Ecovadis, un acteur français qui a ouvert son capital au fonds d'investissement américain CVC et au géant du conseil Bain & Company, qui est lui aussi, vous l'aurez deviné, américain. Il nous reste encore quelques acteurs comme le français Etifinance ou le suisse Ethos Service, mais les Américains sont désormais largement dominants sur le marché européen, d'autant plus qu'avant que tous ces acteurs ne soient rachetés, ils étaient déjà très présents. On peut citer par exemple MSCI, dont vous avez sûrement déjà vu l'acronyme si vous avez investi dans des fonds d'investissement, puisqu'il est créateur d'indices de référence très utilisés par les acteurs français. Alors est-ce que c'est vraiment problématique? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de conséquences visibles, mais il peut être dangereux d'imposer une vision unique de ce qu'est une entreprise durable. D'abord pour une raison culturelle, puisque un secteur vu comme vertueux aux États-Unis ne le sera pas forcément en France ou en Allemagne, parce que chaque pays a une histoire différente sur des leviers économiques différents. Et si on reprend les fameux critères ESG, on peut se poser certaines questions. Sur l'environnement d'abord, avec des pratiques très différentes de chaque côté de l'Atlantique. Pour ne citer qu'un exemple, on peut évoquer le recours aux OGM, qui seraient contenus dans 80% des aliments produits sur le territoire américain, alors qu'ils sont très critiqués en France. Sur le social ensuite, puisque si on parle d'égalité salariale, de droits des parents en entreprise, de discrimination à l'embauche, de harcèlement sexuel ou de quotas de femmes au conseil d'administration, la situation est aussi bien différente en France et aux États-Unis. Côté gouvernance enfin, le fossé culturel existe aussi. Le mythe du self-made man qui écrase tout sur son passage n'est pas très très européen. La redistribution des richesses, la fiscalisation dans le pays d'exercice, la proportionnalité des rémunérations des dirigeants sont des sujets plus universellement discutés en France qu'aux États-Unis. Tout cela n'empêche pas, bien sûr, chaque société de gestion de mettre ses propres critères, en plus d'utiliser les analyses des autres. Mais est-ce qu'une société de gestion qui gère des dizaines de fonds, investie dans des centaines d'entreprises, ne va pas laisser passer des comportements qui n'auraient peut-être pas pu l'être si l'orientation de la notation avait été différente ? Dans l'investissement responsable, je pense que la nuance est cruciale et c'est cette nuance qui va définir une politique d'investissement. C'est donc cette nuance qu'il faut travailler à préserver. Ce n'est probablement pas le chemin qui est pris aujourd'hui puisque les grandes institutions, notamment européennes, travaillent plutôt à la création d'une nouvelle norme pour démocratiser l'investissement responsable et imposer des critères à minima. Tant mieux si cela permet d'imposer certaines pratiques plus durables et de flécher plus d'argent vers la transition. Mais pour une fois que l'Europe était en avance sur quelque chose, ce serait dommage de nous laisser dicter ces critères. Merci pour votre écoute et rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode qui sera dédié au véganisme et à comment investir quand on est végane.